Chapitre 17. Le voyageur mystérieux. À quelque temps de là, un vol considérable fut commis à Paris, et la police, lancée sur les traces des coupables, mit la main sur un voleur qui déclara se nommer Durochat. Or, Durochat, c'était le nom que Couriol avait donné à Laborde, l'un des assassins du courrier de Lyon. Tous ceux qui s'intéressaient au sort de la famille Lezurque, tous ceux qui croyaient à l'innocent du supplicié et voulaient aider à la réhabilitation de sa mémoire, virent dans l'arrestation de Durochat une chance d'arriver à la découverte de la vérité. Ils s'y employèrent avec un zèle digne des plus grands éloges. Le lecteur se rappelle sans doute que M. Daubenton, le juge de paix de la section du Pont-Neuf, s'était constamment montré favorable à Lezurque et qui n'avait jamais caché les sympathies qu'il lui inspirait. Cet honorable magistrat continuait de voir la veuve et il souffrait du spectacle navrant qu'il avait chaque jour sous les yeux. L'intérieur de cette famille était des plus tristes, des plus douloureux. La loi avait été impitoyable. On avait saisi et vendu tous les meubles de ce charmant appartement de la rue Montmartre. On avait confisqué tous les biens, la ferme de Ferrin, la maison de Douai, etc. De sorte que cette famille, habituée à l'aisance, s'était tout d'un coup trouvée réduite à la plus affreuse misère. La mère de Lezurque était devenue folle. La veuve elle-même, fortement ébranlée par toutes ces secousses violentes, côtoyait la folie avec des intermittences de raison et d'insanité. Le cœur de Daubenton se brisait, et il cherchait, par ses paroles, par son dévouement, par son amitié ingénieuse, à relever le courage de ses malheureux réprouvés. Aussi, quand il apprit que Durochat ou Laborde venaient d'être arrêtés pour vol, et qu'il allait comparaître devant le tribunal criminel, l'espoir lui revint instantanément. L'occasion était trop belle pour la laisser échapper, et il ne négligea aucune des précautions que réclamait la circonstance. Il y avait à la poste un inspecteur qui avait dû voir Laborde au moment du départ de la malle pour Lyon le 8 Floréal au soir. Daubenton s'enquit de cet inspecteur et, comme il était absent de Paris, on l'envoya chercher en poste afin qu'il pût assister au débat qui allait s'ouvrir et reconnaître, s'il y avait lieu, dans le voleur Durochat, le Laborde de la malle-poste. Tout se passa comme Daubenton l'espérait, et quand Durochat parut, il fut reconnu de la façon la plus formelle par l'inspecteur, qui n'eut pas une minute d'hésitation. Pendant que cette reconnaissance avait lieu et que le juge de paix enregistrait régulièrement la déclaration, Durochat était condamné à 14 ans de fer pour le vol récent qu'il avait commis. Mais ce n'était ici qu'un incident relativement insignifiant dans la vie de ce misérable, et il était loin de se douter à ce moment qu'une accusation capitale allait le frapper comme complice de l'assassinat du courrier de Lyon. Durochat, dit Laborde, dit Véron, et dont le véritable nom paraît être Jean-Baptiste Varoux, âgé de 32 ans, originaire de Lille, était chapelier rue du Temple. Il avait déjà été arrêté à Marseille peu de temps avant l'exécution d'un nommé Robert Pierre, un de ses compagnons de crime sans doute. Puis il était venu à Paris où, pendant quelque temps, il n'avait eu d'autre refuge que les tapis francs et d'autres moyens d'existence que de honteux trafics. À peine eut-il été condamné que, sur la demande de Daubenton, autorisée par la déclaration de l'inspecteur des postes, le misérable, prévenu de complicité dans l'assassinat d'Excoffon et d'Audebert, fut dirigé sur Melun. M. Daubenton a raconté lui-même les détails curieux de cette translation, et je ne sais rien de plus saisissant et de plus dramatique que cette relation. Tout était préparé pour le transport de Durochat. À Melun, dit l'honorable magistrat, je l'y accompagnais avec M. Masson, huissier du tribunal criminel. Nous y arrivâmes le même jour. Le lendemain de grand matin, Durocha fut interrogé. Il choisit pour être jugé, ainsi qu'il en avait le droit, le tribunal de Versailles. Aussitôt, nous repartîmes pour le conduire à Versailles. Il demanda à déjeuner dans un village un peu au-dessus ou au-dessous de Grosbois. On arrêta la première auberge. Durocha demanda à me parler seul. Les gendarmes courent apercevoir quelque danger pour moi à lui accorder sa demande et me firent signe qu'ils n'étaient pas de cet avis. Je leur donnai l'ordre de sortir et je priai M. Masson de sortir aussi et de veiller à ma sûreté. Resté seul avec Durocha et près de lui, je pris un couteau qui se trouvait entre nous deux pour ouvrir un œuf. Durocha me dit aussitôt, « Vous avez peur, monsieur Daubenton ?»« Et de qui ?» lui dis-je. « Mais de moi, » me dit-il, « vous prenez mon couteau. » « Oh, tenez, lui répondis-je, servez-vous-en pour couper du pain. » À ce trait de tranquillité, Durocha ne put s'empêcher de me dire, « Vous êtes un brave, oui, c'est fait de moi, mais vous saurez tout. » M. Daubenton appelle cela un trait de tranquillité. C'est de l'héroïsme qu'il fallait dire. Il y a dans ce récit une simplicité qui pénètre, et qui charme surtout quand on le compare au ton emphatique de l'époque. M. Daubenton était plus qu'un honnête esprit, c'était un grand caractère. « Vous saurez tout, » avait dit Durocha. « En effet, » poursuit M. Daubenton, « il me fit à l'égard de Courriol, de Vidal, de Roussy et de Dubosc, des déclarations les plus positives sur leur complicité dans l'assassinat du courrier de Lyon et toutes absolument concordantes avec celles que Courriol avait déjà faites. Chapitre 18. Le dernier survivant. Après ce préambule, le magistrat raconte l'arrivée de Durocha à Paris le 17 mars 1797, son dépôt provisoire dans une des salles du tribunal criminel et enfin l'aveu explicite qu'il lui fit du crime du pont de Pouilly. Dans l'affaire du courrier de Lyon, confessa Laborde, c'est le nommé Dubosc qui est venu nous trouver, moi, Durocha et Vidal, dans la rue de Rohan à Paris, où ce dernier demeurait. Il me proposa le vol de ce courrier. Ce fut Dubosc qui m'engagea à monter dans la voiture avec le courrier. J'y consentis et Dubosc m'arrangea un passeport qu'il avait. Avec ce passeport, j'en obtins un autre pour Lyon. Je me présentai à la poste, j'arrêtai ma place et montai avec le courrier. Les seuls qui furent de ce conflot avec moi sont Vidal, Roussy, Dubosc et Courriol. Bernard n'a fait que prêter les chevaux. À notre retour à Paris, nous nous rendîmes chez Dubosc, rue Croix des Petits Champs, où le partage fut fait. Bernard s'y trouva. « J'ai entendu dire, ajouta-t-il, qu'il y avait un particulier nommé Lesur qui avait été condamné. Me dois la vérité de dire que j'ai jamais connu ce particulier. Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu. » Les seuls qui aient concouru à ce crime sont moi, Durocha, Roussy, Dubosc, Courriol et Vidal avec Bernard qui avait prêté les chevaux mais qui n'était pas de l'assassinat. À ce récit auquel il y a bien à répondre, puisqu'il innocente Bernard presque autant que le Zurk et Richard plus encore que ce dernier, M. Daubenton ajoute l'élan du sentiment qui avait porté Durocha à me faire des déclarations si précises, la satisfaction qu'il éprouva de me les avoir faites, celle surtout qu'il affecta sensiblement lorsqu'il m'assura que le Surc était innocent, la fermeté, la conformité de toutes celles qu'il a faites depuis, tout m'a convaincu d'alors de l'innocence de le Surc. Voilà un dès lors qui, de la part d'un ami d'un condamné, en dit plus long que tout ce que l'on a pu trouver de grave dans ce qui précède. Jusque-là donc, ce magistrat intègre, ce juge éclairé, ce courageux citoyen n'avait rien rencontré qui fût de nature à établir sa conviction. Et c'est sur la confession d'un misérable tel que ce Durocha qu'il commence à croire à l'innocence de Lesurc. Mais il y avait à se demander d'abord si cet aveu de Durocha n'était pas une cause secrète, un but habilement dissimulé. Durocha ne pouvait ignorer l'intérêt que l'on portait à la famille Lesurc. Il savait que l'opinion publique s'était prononcée pour lui. Il avait dû suivre tous les débats de l'affaire et pouvait croire qu'un aveu de sa part, qui viendrait en aide aux amis du condamné, serait favorablement accueilli et lui vaudrait l'indulgence du tribunal. D'ailleurs, il ne se borna pas à la simple déclaration que nous avons reproduite. Et devant M. Barbier, l'un des juges du tribunal criminel de Versailles, il sut adroitement se donner un rôle qui eût pu le sauver. Voici le système adopté par ce misérable. « Il était environ 9 heures, dit-il, quand la voiture se trouva au-dessus de Lieusaint. Là, elle fut attaquée par les 4 hommes que j'ai désignés. Ce fut Roussy qui porta le coup de sabre au courrier. Je le parais de toute ma force avec ma main et je reçus à la paume de la main, au-dessus du pouce, une entaille qui me fit répandre beaucoup de sang et dont je porte encore la cicatrice. Alors je m'élançai hors de la voiture et je courus à 20 pas de là où je fus retenu par Couriol, à qui je me plaignis qu'on ne me tenait pas parole et qu'on assassinait au lieu de voler, ainsi que nous en étions convenus. Je lui ajoutai que c'était nous exposer à la guillotine, mais il me répondit « C'est Roussy, tu sais comme il est vif, c'est une affaire faite et ceux qui sont morts ne reviendront pas pour passer devant nous. » Ce système, tout ingénieux qu'il fût, servit peu à Durocha. Ses juges ne crurent pas devoir ajouter foi à une pareille fable, et il fut condamné à la peine de mort, comme l'avaient été Couriol, Lesurc et Bernard. Mais qu'importe Durocha ou Vidal, que l'on venait d'arrêter, ou Roussy qui était si vif, au dire de Couriol. Celui que l'on désirait prendre, le bandit sur les traces duquel on avait lancé les plus fins limiers de la police, c'était Dubosc. Celui-là avait un long compte à régler avec la justice. Il y avait assez longtemps qu'on le recherchait et l'on comprenait que sa capture seule pouvait faire la lumière dans ces ténèbres qu'on ne parvenait pas à éclaircir. Dubosc, tout le monde le disait, c'était le sosie, l'homme à la perruque blonde, le cavalier à l'éperon d'argent. Mais ce misérable avait au moins autant de ruses que ceux que la police envoyait à sa recherche. C'était un de ces héros légendaires du bagne. Sa réputation était considérable. Et il est absolument indispensable que nous disions ici quelques mots de son histoire. Son histoire, c'est tout un roman. Chapitre 19. Un héros des galères du roi. Vers l'année 1784, 10 années avant le crime de Lieusaint, il y avait dans Besançon, vieille ville espagnole, mêlée à la domesticité du palais archiépiscopal, un jeune homme de 22 ans que l'on occupait aux cuisines et dont l'intelligence, l'activité, l'audace même avaient frappé ses maîtres et ses chefs. On l'appelait Dubosc, Jean-Guillaume. Il était né à Bâle, en Suisse, avec quelque temps exercé l'état de mécanicien, puis s'était finalement engagé au service de l'archevêque. C'était déjà à cette époque une de ces natures exceptionnelles, caractère décidé, né pour l'aventure et qui devait fatalement aboutir au crime. Ces êtres-là semblent n'avoir pas de jeunesse. Ils naissent tout faits et la précocité de leur intelligence ne fait qu'aider au développement de leurs instincts pervers. Dubosc était ainsi. Pendant les premiers temps, on n'eut aucun reproche sérieux à lui adresser. Il obéissait à ses maîtres, se montrait actif et probe, et plus d'une fois même, il avait reçu des éloges mérités pour sa conduite et son zèle. Il attendait. Le clergé était fort riche à cette époque. L'archevêque de Besançon avait une table luxueuse dont le service avait fait l'admiration des artistes qu'il recevait. Dubosc n'était pas artiste, mais il aimait l'argenterie. Celle du prélat, surtout, lui donnait parfois d'étranges éblouissements. Il n'en laissa rien paraître, cependant, et tout alla aussi bien que possible durant quelques mois. Mais un jour, tout d'un coup, on apprit avec étonnement que le jeune cuisinier avait disparu sans prévenir personne de son départ et sans même avoir réclamé les gages qui lui étaient dus. C'était inexplicable. On se perdit en conjectures et on allait le plaindre peut-être, quand on s'aperçut qu'une brèche considérable avait été pratiquée dans l'argenterie de l'archevêque et que les pièces manquantes représentaient une valeur d'au moins 80 000 livres. La police, immédiatement prévenue, se mit à la recherche du fugitif et l'on ne tarda pas à l'arrêter. Il se trouvait nanti au moment de l'arrestation d'une partie des objets volés. Son affaire était donc fort mauvaise. Sa jeunesse n'intéressa que médiocrement ses juges et on l'envoya à Toulon, ramé à perpétuité sur les galères du roi. Il n'avait pas 23 ans. Cela promettait. À Toulon, Dubosc trouva des compagnons dignes de lui. Puis il avait encore bien des choses à apprendre et il les apprit. S'il lui restait quelques bons sentiments, ce qui est douteux, il les perdit vite. Au bout de quelques mois, il savait tout ce qu'un vrai bandit doit savoir. Seulement, de tous les conseils qu'on lui donnait, il n'avait retenu qu'une chose, la seule qui l'intéressa. C'était la manière de préparer une évasion. Il était jeune, lui, et ne voulait pas pourrir sur la paille humide des cachots. Une fois que la pensée d'évasion fut entrée dans son cerveau, il n'en voulut point avoir d'autre. La nuit, accoudé sur son grabat, veillant pendant que ses compagnons dormaient, il aspirait avec avidité l'air libre qui pénétrait dans les grandes salles par les fenêtres ouvertes. Une sentinelle se promenait incessamment au pied du mur. Mais toutes les sentinelles ne sont pas vigilantes au même degré. Elle racontait que plus d'une faisait sa faction endormie dans sa guérite. La fièvre s'empara de Dubosc. Il lui sembla que l'espace l'appelait et que ses obstacles s'abaisseraient devant lui. Il fut tenté. Et avec la patience, l'adresse, l'audace qui devaient plus tard le placer si haut dans l'estime de ses compagnons de chaîne, il se prépara à quitter les galères. Comment s'y prit-il? Oh, l'histoire ne le dit pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une nuit sombre et voilée de brouillard épais, il descendit le long du mur de sa prison, passa auprès de la sentinelle sans être aperçu, et gagna le port où une barque l'attendait. La barque le conduisit au large, puis de là sur la côte, en remontant vers Marseille. Il s'était précautionné de tous les objets qui pouvaient lui être nécessaires, et quand il eut payé le marin qui l'avait accompagné, il prit son paquet de hardes sous son bras et gagna une anfractuosité de roche où il put opérer sa transformation. Le jour était venu depuis longtemps, et il ne fallait pas s'exposer à être surpris. Maintenant qu'il avait goûté de la liberté, Dubosc ne voulait à aucun prix retourner aux galères. Et il avait d'autant plus raison, selon le plan qu'il avait formé, qu'il lui restait encore enfoui dans un lieu connu de lui seul, quelques épaves du vol commis chez Monseigneur de Besançon. Il changea donc de vêtements, se livra à des ablutions réitérées, se coiffa d'une perruque blonde pour dérouter la maréchaussée, et rendu ainsi méconnaissable, il partit peu après à la recherche de nouvelles aventures. Nous avons dit qu'il avait caché, dans un endroit connu de lui seul, une partie de l'argenterie volée chez l'archevêque. C'est vers cet endroit qu'il se dirigea. Il y arriva le troisième jour, à la tombée de la nuit. C'était sur la lisière d'un bois, dans un lieu absolument isolé, derrière un fourré d'arbres communiquant à une clairière. Dubosc reconnut bien vite l'endroit et se vit en devoir de déterrer son trésor. Mais à peine avait-il commencé l'opération qu'il s'arrêta surpris. Derrière lui, il venait d'entendre un éclat de rire strident et moqueur. Il se retourna effaré. Un homme était sorti du fourré et le regardait d'un air railleur. Dubosc ne savait que penser de cette apparition. L'inconnu était un grand diable de 5 pieds 8 pouces, les cheveux noirs, les yeux vifs, et présentait dans toute sa physionomie vigoureusement accousée le type des Italiens des environs de Gênes. « Oh ça !» dit Dubosc d'un ton résolu et menaçant. « Que fais-tu là, toi, et que veux-tu ?» L'inconnu se prit à rire et montra de belles dents blanches sous ses moustaches noires. « Et donc, répondit-il avec un accent étranger, très prononcé, ne la devines-tu pas suffisamment? Je te connais, je t'ai suivi, et je viens assister à la recherche de ton trésor. »« Quel trésor? Celui que tu as caché après le vol de Besançon. » « Oh, tu sais bien des choses, l'ami. C'est utile quelquefois. Mais dans quel but m'as-tu suivi? Ben voilà, je suis sans argent, je veux me rendre à Paris et je pensais que tu ne me refuserais pas de m'avancer la petite somme dont j'ai besoin. Je m'empresse d'ajouter que si tu me refusais, je me verrais forcé d'user de mon crédit pour te renvoyer aux galères. » Chapitre 20. Une aventure romanesque. Dubosc fronça le sourcil et sa physionomie prit une expression farouche. Mais, tout jeune qu'il fût, c'était déjà un homme de résolution prompte et il eut bien vite pris son parti. « Comment t'appelles-tu ? » demanda-t-il vivement à l'inconnu. « Roussy, » répondit ce dernier. « Tu es étranger ? Je suis italien. Et pourquoi te trouves-tu en France et non plus en Italie ?» Roussy haussa les épaules. « J'ai commis, répondit-il, de l'autre côté des Alpes, quelques petits péchés pour lesquels l'absolution ne s'achète pas, de sorte que je suis obligé de m'expatrier. Alors tu vas à Paris ? Dès que j'aurai les ressources nécessaires. Eh bien, soit, fit Dubosc. Ben, il y a là, comme tu l'as dit, enfouis sous la terre, quelques objets d'argenterie qui pourront payer nos frais de voyage. Puisque tu te présentes si bien, nous ferons autre ensemble, et une fois à Paris, nous verrons ce qu'il y aura à faire. À la bonne heure, mais sois tranquille, tu n'auras pas à te repentir de m'avoir associé à ta fortune. La connaissance était faite. Les deux amis se serrèrent la main en signe d'alliance, et 15 jours après, ils arrivaient dans la capitale. Toutefois, Dubosc ne tarda pas à remarquer que son compagnon était un peu vif, et pourrait finir par l'entraîner dans quelque mauvaise entreprise. Peu à peu, il se sépara de lui, et bientôt il cessa presque complètement de le voir. Roussy alla de son côté, Dubosc du sien. Sans rancune, cependant, et abandonnant chacun au hasard le soin de les rapprocher à un moment donné, s'il le jugeait convenable. Dubosc vécut donc quelque temps ainsi, fréquentant les lieux publics, les promenades, les théâtres, et ne dédaignant pas de fouiller au besoin dans la poche des badauds qui passaient à portée de sa main subtile. Dubosc affectionnait surtout Nicolet. Bon, ce n'était pas faire montre de goût bien relevé, peut-être, mais chacun prend son plaisir où il le trouve, et le sien était là. Nicolet. dans une ordonnance royale qui date de quelques années avant la Révolution, on s'était occupé du célèbre directeur. L'intention du roi, disait cette curieuse ordonnance, est que les privilèges des comédiens soient éternels. Et si pour l'amusement de la populace il a permis les bouffonneries et parades, c'est à condition que Nicolet et Odinot, se contentant de scènes détachées, n'auront jamais plus de 4 ou 6 violons dans leur orchestre et plus de 8 ou 10 danseurs dans leur ballet, que le prix sera toujours de 24 sols aux premières loges, de 12 aux secondes et de 6 aux dernières places. Dubos n'était pas difficile et peu lui importait qu'il y eût 4 ou 6 violons, 8 ou 10 danseurs. C'était pour lui une distraction agréable et presque tous les soirs, moyennant ses 24 sols, il s'asseyait aux premières loges. Vers cette époque, il lui arriva une aventure singulière qui devait avoir sur sa vie une influence décisive. Un soir, il revenait du théâtre et regagnait son domicile, qu'il avait provisoirement établi rue de l'Arbre Sec. Le temps était sombre. La bise sifflait aux angles des rues, et tout en marchant d'un pas rapide, il songeait avec appréhension à l'état de ses ressources qui, sous peu, allaient se trouver complètement épuisées. Tout à coup, au détour d'une des rues étroites et tortueuses qui avoisinait alors l'hôtel de ville, des cris se firent entendre à peu de distance et le bruit d'une rixe acharnée arriva jusqu'à lui. Dubosc n'aimait pas à se mêler des affaires des autres, mais je ne sais quel sentiment s'empara de lui à ce moment. Une force plus puissante que sa volonté le poussa en avant et en quelques secondes il se trouvait sur le lieu du combat. À la pâle et incertaine lueur des réverbères, il aperçut alors 3 hommes qui en entouraient un quatrième, lequel, bien que moins robuste que ses agresseurs, se défendait avec une rare énergie. Dubost s'arma d'un couteau et fondit sur les misérables. Dès lors, la partie s'égalisait. En moins de temps qu'il en faut pour l'écrire, il blessa un des assassins, renversa le second et mit le troisième en fuite. Il ne restait plus que le jeune homme qu'il venait de sauver. Un jeune homme, en effet, autant qu'il put distinguer ses traits dans le premier moment. Il avait 20 ans à peine, de longs cheveux châtains, une taille élevée et souple et l'œil plein de vivacité. Le jeune homme salua avec aisance et tendit à Dubosc une petite main que celui-ci prit et serra. « Vous m'avez sauvé, » dit-il en même temps d'une voix douce comme une voix d'enfant, « et je vous en exprime toute ma reconnaissance. »« Bon, » reprit Dubosc, « ce que je fais aujourd'hui pour vous, vous le ferez demain pour moi. » Mais sans vous, cependant, j'étais assassiné. Connaissez-vous les assassins? Nullement, mais il est probable qu'ils me connaissent, eux. Et qui vous le fait supposer? Leur tentative même? Ah, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Je vis seul à Paris, j'habite depuis quelque temps un méchant hôtel garni, assez loin d'ici. Et comme je n'ai qu'une confiance limitée en mon hôtelier, j'ai pris l'habitude de porter sur moi toute ma fortune. Ah, elle est considérable. 10 000 livres. Diable! Il y eut un moment de silence. Dubos réfléchissait qu'une bonne action trouve toujours sa récompense, et il se demandait s'il était bien prudent à ce jeune homme de raconter ainsi ses affaires au premier venu. « Enfin, reprit-il, vous croyez que vos agresseurs en voulaient à vos 10 000 livres? J'en suis sûr. Vous n'avez pas été blessé, au moins?
Oh non, presque rien.
Que dites-vous?
Une simple égratignure à l'épaule.
Est-ce possible, une blessure, et vous demeurez loin d'ici? Oh, je ne souffrirai pas.
Que voulez-vous donc?
Eh, pardieu, une chose fort naturelle. Je demeure à quelque part, rue de l'Arbre Sec. Vous allez m'accompagner, et là, du moins, je pourrai vous offrir les soins que votre état réclame. J'espère que vous ne me refuserez pas. Le jeune homme se prit à sourire. Ma foi, dit-il avec abandon, vous insistez avec tant de bonne grâce que j'accepte. À la bonne heure. Donnez-moi votre bras et partons. Le jeune homme mit son bras sur celui de Dubosc et ils se dirigèrent ainsi vers le logis de ce dernier. Chapitre 33. Bernard, le garde chiourme. Quelques jours après, les deux étrangers mettaient leur projet à exécution. Ils savaient que le bijoutier devait s'absenter et ils s'étaient armés de tous les outils qui leur étaient nécessaires. Dubosc avait établi domicile dans la maison de la rue Saint-Guillaume et la nuit venue, pendant que Claudine pénétrait dans l'arrière-boutique de l'orfèvre, il escaladait le mur de la cour. Le déménagement commença aussitôt. Déjà, les principales pièces d'argenterie avaient pris le chemin de la maison voisine et Dubosc revenait pour la dixième fois vers le magasin quand, au moment de tenter une dernière escalade, il entendit un cri et crut reconnaître la voix de Claudine. Il tressaillit. Quelque chose d'extraordinaire venait de se passer chez l'orfèvre. Claudine avait été surprise, peut-être, et elle n'avait poussé ce cri que pour prévenir son complice et lui donner le temps de fuir. Mais il hésita. Son intérêt lui disait de retourner sur ses pas et de mettre le produit de son vol en lieu de sûreté. Mais pour cela, il fallait abandonner Claudine et la laisser aux mains de ceux qui, sans doute, venaient de la surprendre. Les voleurs ont aussi leur délicatesse, à ce qu'il paraît. Dubosc ne put supporter l'idée d'une pareille lâcheté. Il prit son élan, franchit le mur, traversa la cour à pas rapides et arriva dans la salle. Il espérait n'avoir affaire qu'à un seul homme, au vieil orfèvre, mais quand il arriva dans la pièce dévastée, il se trouva subitement entouré par trois agents qui se précipitèrent sur lui et le garrottèrent. Claudine, en l'apercevant, lui avait jeté un regard où la satisfaction. Elle était heureuse de cette preuve éclatante d'amour dont elle était l'objet, mais son cœur se déchirait à la pensée que son amant allait être envoyé aux galères. C'est à peine si elle songeait au sort qui l'attendait elle-même. Du reste, en ce qui concernait Dubosc, elle ne se trompait pas. L'identité du misérable ne tarda pas à être établie de la manière la plus évidente, et un mois après, il retournait à Toulon pour y reprendre sa place sur les galères du roi. Quant à Claudine, elle était condamnée à 5 années de prison. Leurs amours avaient duré 2 ou 3 jours à peine, mais le souvenir des sinistres ivresses qu'elle leur avait données ne devait jamais s'éteindre dans leur cœur. Une année se passa sans nouvel incident dans la vie de Dubosc. Il avait retrouvé au bagne une partie des compagnons auxquels il avait faussé compagnie, et il s'était remis à préparer avec une patience de galérien les nouveaux éléments d'une prochaine évasion. Cette fois, l'opération n'était pas aussi facile qu'il l'avait espéré. On se souvenait encore à Toulon de l'audace avec laquelle il avait accompli sa première tentative, et on avait spécialement attaché à sa personne un garde chiourme éprouvé et connu, et dont la surveillance ne paraissait pas facile à prendre en défaut. Il s'appelait Bernard, était âgé de 45 ans, et n'avait jamais quitté les galères. Certains forçats assuraient qu'il y était né. Bernard était roux, rogue, taciturne, impitoyable. Il portait constamment à la main un bâton noueux, dont il faisait un usage terrible quand on faisait mine de lui résister. Dubosc avait cherché plusieurs fois à lier conversation avec lui. Bernard s'était contenté de froncer les sourcils, de serrer son bâton dans ses mains énormes, mais il n'avait pas répondu. Une vraie porte de prison, comme on dit. Cependant, il devait y avoir un défaut à cette cuirasse d'acier peu polie. Mais où était-il? Dubosc attendait. Une année s'écoula, puis quelques mois encore, et aucune remarque favorable ne vint lui rendre l'espoir. Il commençait à s'inquiéter et s'ingéniait à trouver une issue à cette impasse dans laquelle il se voyait enfermé pour longtemps. Un matin, une chose singulière se passa. C'était un dimanche. On ne ramait pas ce jour-là, mais on allait à la chapelle. Dubosc avait pris rang dans son escouade, et il arrivait, le dernier, à la porte de la chapelle, quand il sentit une main qui cherchait la sienne et y glissait un objet de forme singulière. Il regarda vivement l'objet. C'était une boulette faite de mie de pain. Et quand il se retourna pour voir qui lui faisait cette libéralité, il aperçut derrière lui que la figure impassible et renfrognée de Bernard. On comprend avec quelle impatience Dubosc attendit la fin de l'office pour avoir l'explication d'un incident aussi mystérieux. Il avait caché avec soin la boulette sous sa casaque, mais cette boulette lui brûlait la poitrine. Heureusement, l'office dura peu et toute la chiourme entra bientôt dans les salles. C'était l'heure du déjeuner. Dubosc alla dévorer le sien en cachette et, dès qu'il fut loin des regards de tous, il brisa la boule de mie de pain et y trouva une petite scie de fin acier enveloppée elle-même de papier. Sur le papier, il n'y avait que ces mots « Je suis près de toi, espère ». Cet envoi ne pouvait venir que de Claudine, il n'en douta pas un instant. Mais depuis quand était-elle à Toulon? Mais comment était-elle parvenue à apprivoiser le farouche Cerbère que l'on appelait Bernard? Enfin, que devait-il espérer de cette intervention inattendue? Dubosc passa une nuit fort troublée. Le lendemain, il chercha à surprendre dans les yeux de Bernard quelques signes d'intelligence. Mais le garde-chiourme n'était ni moins taciturne, ni moins impénétrable que la veille. Il fallait attendre. Vers le milieu du troisième jour, comme l'embarcation sur laquelle il ramait rentrait dans le port et allait aborder à la cale, elle croisa, presque bord à bord, un canot dans lequel était étendu un jeune homme que promenaient quelques matelots. « Prenez donc garde !» s'écria le jeune homme en s'adressant à Dubosc, dont la rame avait failli le toucher. Dubosc frissonna dans tout son être. Cette voix qui venait de parler, c'était celle de Claudine. Il se redressa sur son banc pour voir, mais déjà le canot s'éloignait avec rapidité. Et c'est à peine s'il put échanger un regard avec Claudine. Si court cependant qu'eût été ce moment, si fugitif qu'eût été ce regard, cela avait suffi, et la confiance revint dans son esprit. Chapitre 24. L'évasion. 2 heures plus tard, Dubosc travaillait dans le port. Bernard l'avait chargé de ranger des piles de boulets sur ce quai, et il accomplissait sa besogne seul à quelques pas de ses compagnons. Le garde-chiourme ne le quittait pas de l'œil et paraissait même surveiller tout particulièrement la manière dont il effectuait son travail. Tout à coup, il fronce le sourcil, profère un juron énergique et se précipite le bâton levé sur Dubosc interdit. « Prends garde, gibier de potence !» dit-il en même temps. « Fais attention à ce que tu laisses tomber derrière toi !» Dubosc se retourne, se penche à terre, et pendant que le bâton de Bernard tombe à coups redoublés sur ses épaules, il entend ces mots murmurer rapidement à son oreille. « Une heure, cette nuit, dans l'atelier, fenêtre à gauche, ta sœur t'attendra, porte de Paris. » « Et maintenant, ajoute le garde-chiourme d'une voix tonnante, Que la leçon te serve. Va rejoindre tes compagnons, on ne recommence plus. »
Dubosc obéit. Il avait les épaules brisées, mais jamais il n'avait éprouvé une pareille joie. Le jour baissait, la nuit allait venir. C'est à peine s'il toucha à son souper. Il avait simulé une sorte d'entorse et s'était allongé sur son lit. Et pendant que ses compagnons, groupés en un coin de là, devisaient des prouesses passées, il achevait de limer l'anneau qu'il portait au pied. Puis la nuit vint. Il entendit successivement tinter toutes les heures jusqu'à minuit, et à partir de ce moment, il se mit à compter les minutes. Enfin, une heure sonna. Un silence profond régnait de tous côtés. Il glissa furtivement de son lit, se débarrassa de sa ferraille, et à pas de loup, retenant son souffle, il gagna la porte. Chose étrange, la porte était entr'ouverte. Il sortit, descendit dans l'atelier, se dirigea vers la fenêtre gauche, où il trouva un costume complet d'ouvrier du port. Le plus fort était déjà fait. Comme il connaissait les êtres de la maison, il s'orienta facilement à travers plusieurs cours désertes, franchit un ou deux murs, et il n'était pas 2 heures qu'il arrivait au rendez-vous à la porte de Paris. Mais Claudine ne s'y trouvait pas encore. Qui pouvait l'avoir retenue? C'est elle qui avait indiqué l'heure, sans doute. Par quel filtre avait-elle obtenu la complicité du garde-chiourme pour une entreprise si dangereuse qu'une évasion? Il s'était assis sur le revers de la route et il regardait. En ce moment, un point noir parut à l'horizon. Dubosc se leva. C'était celle qui l'attendait. Il l'avait devinée, plus encore qu'il ne l'avait reconnue. Claudine arrivait en courant. « Guillaume !» dit-elle du plus loin qu'elle l'aperçut elle-même. « Claudine !» répondit Dubosc. Et presque aussitôt, les deux amants étaient réunis. Dubosc avait pris les mains de sa maîtresse dans les siennes, et à la lueur de la lune, il la contemplait avec ivresse. « Toi, toi !» dit-il, « ah, je n'espérais plus te revoir !» Tu vois qu'il ne faut jamais s'abandonner. Viens, viens. Mais où allons-nous? Jusqu'au premier relais. Il y a là des chevaux très préparés qui nous attendent. Partons. Claudine cherchait à entraîner son amant. Elle paraissait avoir hâte de s'éloigner. Un moment, Dubosc fit un geste d'effroi.
Qu'y a-t-il? Demanda Claudine. « Là, là, sur ton gilet, des taches de sang, tu es blessé. »« Moi ? Mais tu as soutenu une lutte, peut-être. Que s'est-il passé ? Parle, je veux le savoir. »
Claudine haussa les épaules.
« Ce n'est rien, » répondit-elle. « Et ce sang que tu vois, c'est celui du garde-chiourme. »«
Bernard ?
Eh, sans doute l'imbécile. » Pour me le rendre favorable, j'avais été obligé de lui promettre plus que je ne voulais tenir. Et quand elle est revenue, il a bien fallu m'en débarrasser.
Tu l'as donc tué ?
Claudine prit la main de Dubosc et l'entraîna avec autorité.
Partons, dit-elle, et sois tranquille. Ce n'est pas Bernard, du moins, qui pourra jamais nous trahir.
Chapitre 25. Retour à Besançon. Cette fois, ce n'est pas à Paris que les deux amants allèrent chercher fortune et continuer leur existence d'aventure. Ils ne firent que toucher barre dans la capitale, ils retinrent un appartement sous un nom d'emprunt et dès le lendemain, ils gagnaient la Normandie. Non cependant qu'ils craignissent d'être signalés, ni qu'ils eussent à redouter d'être devancés à Paris par quelque avis émanant de la police de Toulon. Cette époque fut l'âge d'or des voleurs. Le télégraphe électrique n'était pas encore inventé. Les chemins de fer étaient dans les limbes, et quant au télégraphe aérien, C'est à peine si l'on commençait à s'en occuper. Le bon temps que c'était pour les malfaiteurs. Et puis, la révolution allait éclater. Il en y est un trouble profond dans toutes les classes, un désordre inouï dans tous les esprits. La police s'attachait à protéger le roi, de préférence à la société, et l'on commençait, dans certaines régions, à redouter bien plus les révolutionnaires que les vrais criminels. C'est donc en Normandie que Dubosc et Claudine Barrière allèrent s'installer, et c'est Rouen qu'ils choisirent pour principal théâtre de leurs exploits. Ils y restèrent plusieurs années, allant et venant à terre, à travers cette province plantureuse, et effectuant de temps à autre des apparitions plus ou moins longues à Paris, dans l'appartement qui leur servait de pied-à-terre et qui était situé rue Croix de Petit-Blanche, hôtel de la Paix. Mais il arriva une chose facile à prévoir. C'est que le couple étrange finit par s'ennuyer de cette existence qui tournait continuellement dans les mêmes horizons, et Claudine surtout fut prise du désir ardent de changer de province. D'ailleurs, un plus long séjour en Normandie devenait dangereux. On commençait à les y connaître pour les avoir trop vus. À plusieurs reprises, ils avaient été arrêtés, jetés en prison, et bien qu'ils eussent chaque fois réussi à s'évader, sa sinistre notoriété qui s'attachait à leur nom et à leur personne ne pouvait manquer de leur créer bientôt de nombreux et sérieux embarras. Il était donc prudent de disparaître pendant quelque temps et d'aller, sous d'autres latitudes, chercher un terrain moins exploré et des dupes moins prévenues. Dubosc le comprit parfaitement et, d'accord avec Claudine, après une très courte station à l'hôtel de la rue Croix des Petits Champs, il partit seul, se dirigeant vers la Bourgogne et donnant à sa maîtresse rendez-vous dans le meilleur hôtel de Besançon. Je ne sais quel secret aimant l'attirait invinciblement vers la ville de ses premiers exploits. La vieille et sombre cité avait perdu son archevêque, emporté par la tourmente révolutionnaire. Mais Dubosc ne venait pas précisément à retrouver le prélat, et c'était plutôt ces lieux mêmes qu'il désirait revoir. Pour ne pas être reconnu, bien que 10 années d'une vie agitée et violente l'eussent déjà bien suffisamment changé, il s'était coiffé d'une perruque blonde, dont les cheveux se relevant étaient lisses et qui par derrière avait une cadenette retroussée selon la mode du temps. Il portait en outre une redingote et un gilet à large revers, une culotte du même drap que la redingote et des bottes à retroussis. Il voyagea d'abord à petites journées, prenant son temps, jouissant de sa liberté, et rêvant peut-être à de nouvelles prouesses. Ce n'est guère que 8 jours après son départ qu'il arriva enfin à Besançon. C'était le soir. La nuit n'était pas encore tout à fait venue, mais l'ombre déjà envahissait la rue. Il ne songea donc pas à parcourir la ville et, remettant sa visite au lendemain, il marcha droit à l'hôtel où Claudine devait le rejoindre quelques jours plus tard. À peine eut-il décliné son nom, que l'aubergiste releva vivement le front et parut l'examiner avec attention. « Guillaume, répéta-t-il, vous avez bien dit Guillaume, n'est-ce pas ?»« Sans doute, répondit Dubosc étonné. « Alors, c'est bien vous ?» Mais que voulez-vous dire? Ben, je veux dire, citoyen, qu'il est arrivé ce matin de Paris un jeune homme qui m'a donné votre signalement en recommandant de l'aller prévenir dès que vous seriez arrivé. Ah, et que me veut ce jeune homme? Oh, je l'ignore. Mais enfin, comment s'appelle-t-il? Barrière. Dubosc eut un mouvement de crainte. Ce jeune homme qui l'attendait ne pouvait être que Claudine. Mais d'où venait qu'elle avait devancé le jour de son arrivée? Quel événement avait bien pu changer ainsi ses dispositions?
Il ne savait à quelle supposition s'arrêter. « Mais voulez-vous me suivre, citoyen ?» dit alors l'aubergiste. Dubosc prit son chapeau et suivit son hôte. C'était bien Claudine. Comme Dubosc, elle avait endossé un nouveau costume. Elle portait un gilet à manches, un pantalon rouge, un habit bleu, et cachait ses cheveux châtains sous une perruque blonde, pareille à celle de Dubosc. Pour que le lecteur ne nous accuse pas de mauvais goût, nous devons déclarer que nous n'inventons rien, et que ce costume bizarre que nous venons de décrire a été relevé dans le registre des coups de la maison de justice de Versailles. Dès que Claudine eut aperçu Dubosc, elle alla à lui et lui serra la main. Puis, se tournant vers l'aubergiste, « Maintenant, lui dit-elle d'une voix impérieuse et brève, veillez, je vous prie, à l'exécution des ordres que je vous ai donnés en arrivant. » « Mais quels ordres ?» dit Dubosc. « J'ai demandé 2 chevaux de poste. »« Oh, nous partons donc ?»« Oui, dans un quart d'heure. »« Et nous allons ?»« Oh, je t'expliquerai cela. »« Allez, citoyens, et venez nous prévenir dès que tout sera prêt. »« Vous avez ma réquisition qui est en règle, et il ne reste plus qu'à en exécuter sans délai les prescriptions. » L'aubergiste avait disparu. « Mais que se passe-t-il » demanda Dubosc dès qu'il se trouva seul avec Claudine. « Mais 2 choses importantes, » répondit la jeune femme. « Lesquelles ?»« Une première affaire de 2 millions. »« Diable !»« Et une seconde qui peut en rapporter 10 fois plus. » Dubosc passa en souriant la main sur ses yeux. « Voyons, voyons, » dit-il, « procédons par ordre. » car il y a là de quoi être ébloui. Les 2 millions d'abord. Ils sont à Lyon, à l'hôtel du Parc. Il faut nous hâter si nous ne voulons pas les laisser échapper. Mais en quelles mains sont-ils? Un vieillard qui me veut du bien, comme le garde-chiourme. Ce sera facile, et cette fois on n'en viendra pas aux extrémités fâcheuses. Oh, ben, tant mieux, et la seconde affaire? « Oh, celle-là, c'est mieux, mais nous ne serons pas seuls. »« Comment ?»« Après ton départ, j'ai fait connaissance d'une femme. Elle s'appelle Madeleine Bréban. Elle vit avec un nommé Couriol, un muscadin. Il m'a parlé de bien des choses, mais l'accomplissement desquelles il faudra causer. »« Eh bien, nous causerons, mais pour le moment... »«
Pour le moment, » compléta Claudine, « il faut partir. » Sans délai pour Lyon. Et nous sommes servis à souhait, car j'entends que l'on vient nous annoncer l'arrivée des 2 chevaux de poste.
Comme elle achevait ces mots, la porte s'ouvrit, et l'aubergiste les prévint, en effet, que tout était prêt pour leur départ. Presque aussitôt, ils quittèrent Besançon, au galop de leur monture.